Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui, une brève encyclopédie du monde.
Je suis très, très ému de vous retrouver parce que quand j'ai démarré il y a longtemps, en 2002, l'Université populaire, je ne savais pas où j'allais. Nous étions quelques-uns qui m'avaient fait l'amitié de me suivre. Ça a duré 13 ans. C'est devenu ce que c'est devenu. Je ne savais pas que le cycle durerait aussi longtemps. Je pensais que finalement, 3 ans, 3 ou 4 ans, j'aurais fait le tour de 25 siècles d'histoire des idées, d'histoire de la philosophie. Et puis, au fur et à mesure, c'est une histoire qui m'a construit, en même temps que j'ai construit cette histoire. Au départ, je suis parti sur l'idée que je voulais faire quelque chose comme une espèce de génie de l'hédonisme. C'était un peu culotté, il y avait un génie du christianisme chez Chateaubriand, et je me suis dit, mais peut-être on pourrait montrer aussi qu'il y a 25 siècles d'histoire de la philosophie qui ne sont pas les siècles qu'on nous présente habituellement, les penseurs idéalistes, spiritualistes, catholiques, chrétiens, protestants, l'idéalisme allemand. Il y en avait d'autres, et je voulais vous les faire partager. Et donc j'ai démarré cette contre-histoire de la philosophie, et je me suis aperçu à un moment donné que c'était pas tant une histoire de l'hédonisme, même si finalement ça coïncidait, mais c'était une contre-histoire. Donc j'ai proposé ce concept de contre-histoire. Ça a duré 13 années. Il y a eu donc 275 séances et 550 heures. Et puis, cette histoire s'est terminée parce que j'avais pris le parti de démarrer avec les plus anciens des philosophes hédonistes, donc Leucippe, par exemple, Leucippe Démocrite, et puis de finir avec des contemporains, et c'est ce que j'ai fait avec des vivants même, puisque Raoul Van Hegem et Robert Misrahi, qui ont fait l'objet des derniers cours, sont toujours en vie, et je leur souhaite encore une longue vie. Mais je vous disais qu'au fur et à mesure, cette histoire que je faisais me faisait, et je me suis aperçu que finalement l'axe de l'hédonisme faisait que j'oubliais pas mal de choses dans les premiers cours sur les philosophes en question. Par la suite, j'ai fait des cours plus denses, mais c'était aussi plus facile parce que parfois j'ai fait cours sur une phrase d'un philosophe, et donc c'était difficile de mettre en perspective la méthode que j'ai créée. Je vais vous parler de cette méthode, et donc il y a ce que les peintres appellent des repentirs, c'est-à-dire on reprend sa toile et puis on rajoute des petites choses. Et il y a des philosophes dont je n'ai pas parlé, dont j'aimerais parler, et qui seront l'occasion d'un repentir, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Il y a des gens dont je n'ai pas parlé, et dont il aurait fallu parler. Je songe à Don Deschamps, par exemple, au XVIIIe siècle, qui est un curé qui invente l'ontologie française. L'abbé de Saint-Pierre, un voisin, puisqu'il est natif de la Manche, et qu'il invente un projet de paix perpétuelle, très utile, ce serait très très utile ces temps-ci de le relire, notre cher abbé de Saint-Pierre, puisqu'il fait un très très gros projet de paix perpétuelle, et que Kant fait, lui, un tout petit projet de paix perpétuelle qui s'empare du texte de l'abbé de Saint-Pierre. Donc il y a une antériorité de l'abbé de Saint-Pierre et qui m'aurait intéressé. On est passé à côté. J'aurais voulu aussi parler de Feuerbach, qui a été l'un des auteurs qui faisait partie de ma thèse. C'est un philosophe extrêmement important, allemand, hédoniste, déconstructeur de la religion. Pas seulement le christianisme, mais toutes les religions, le principe de la religion. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'essence du christianisme », mais un autre plus beau encore qui s'appelle « L'essence de la religion ». Et c'est implacable, il faudrait lire ce genre de texte. Ou Clément Rosset, par exemple, philosophe lui aussi, contemporain, vivant, et on pourrait dire qu'il y a chez cet homme une constance dans sa pensée du réel, dont il nous dit depuis très très longtemps qu'il est sans double. Ça semble simple, mais c'est toute une métaphysique et toute une politique qui s'en trouve induite. C'est-à-dire, si le réel est ce qu'il est et pas autre chose, une évidence, et s'il n'a pas de double, ça veut dire que l'idéalisme n'est pas possible. Ça veut dire que l'idéologie n'est pas possible. Ça veut dire que tout ce qui a conduit le XXe siècle n'est pas possible. Les fantasmes freudiens, les fantasmes structuralistes, les fantasmes fascistes, les fantasmes nazis, les fantasmes marxistes, aujourd'hui les fantasmes religieux, eh bien, tout ça se trouve déconstruit simplement par un Clément Rosset dont j'aurais aimé pouvoir vous parler. Je ne sais pas comment s'y repentir. On verra quelle forme ça prendra. Il m'a fallu à un moment donné me poser la question du « je continue ou j'arrête ». On nous a rendu la vie pas mal difficile. Je vous passe les détails de l'intendance. Il se fait que j'ai décidé de continuer. Donc, il faut un séminaire, à faire de l'impressionnisme en disant, on fait ponctuellement des petites choses de temps en temps comme ça. Il m'a fallu quelque chose qui ressemble à la contre-histoire de la philosophie. Et comme c'était un gros travail, la contre-histoire de la philosophie, et que j'y passais la totalité de mes vacances, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, et que je ne sortais pas, que je ne faisais pas de conférences, et que je m'y mettais en lisant des œuvres complètes, et qu'il fallait à côté que j'écrive des livres, je me suis dit, après tout, les livres que j'écris pourraient très bien aussi être enseignés. Je me suis dit que j'aurais cette audace, donc j'ai cette audace. Et je démarre avec vous un séminaire 2015 qui, théoriquement, si mes calculs sont bons, pourrait se terminer en 2023. Si le Libération, le djihad, Marine Le Pen n'ont pas raison de moi d'ici là, ou quelques autres embusqués, non loin. Et j'ai donné comme titre à ce nouveau séminaire « Brève encyclopédie du monde ». Quelques-uns à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était un peu culotté. J'ai dit, il faut toujours donner des leçons, des explications de texte, maintenant ça devient difficile, parce que il faut toujours expliquer ce qui est entre les lignes. Et j'ai pas appelé ça encyclopédie du monde, ce qui aurait été culotté, évidemment. Ça s'appelle brève encyclopédie. Une brève encyclopédie, c'est un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui s'opposent, et qui, dans leur opposition, génèrent un sens nouveau. Par définition, l'encyclopédie, c'est ce qui se propose de faire le tour des savoirs. Il y a eu des encyclopédies, jadis, d'une certaine manière, l'inventeur de l'encyclopédie, c'est Aristote, qui, sur un certain nombre de sujets, la biologie, les constitutions, par exemple, ou les histoires des animaux, enfin, sur les histoires météorologiques, enfin, Aristote est quelqu'un qui a fait œuvre en disant, machin disait que, bidule disait que, tel autre rapportait que, etc. Et on a un savoir concentré, on ne sait pas toujours où est la pensée d'Aristote. Donc c'est vieux, l'esprit encyclopédique, c'est très ancien. Et puis on connaît l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, bien sûr, c'est celle qui fait un petit peu référence, et on oublie que ces encyclopédies-là, elles exigent un travail collectif. Autant Aristote peut mener tout seul ce projet, parce qu'il a une école, qui s'appelle le lycée en l'occurrence, et faire travailler ses élèves sur le sujet, mais autant à un moment donné, les savoirs sont tellement vastes, sont tellement grands que l'encyclopédie n'est plus possible que parce qu'il y aura eu un certain nombre d'individus qui, collectivement, auront effectué ce travail. Il y a, chez Hegel, philosophe de l'idéalisme allemand au XIXe siècle, un livre qui s'appelle « L'encyclopédie ». C'est un livre qu'il fait tout seul, qui fait 500 pages, et qui se propose un système. C'est une pensée systématique, elle est parfois obsessionnelle, c'est-à-dire il est obsédé par les triades, il veut absolument que les choses fonctionnent par trois, puis par trois, puis par groupe de trois, puis par trois groupes de trois, etc. Et d'une certaine manière, le divers, le multiple, rentre dans une structure qu'on appelle finalement un système. Donc, moi, je ne vous propose pas un système, je ne vous propose pas une fermeture du monde dans un système qui aurait mon nom, je vous propose au contraire un éclatement du monde et une proposition de saisie d'un certain nombre de ces éclatements. Ça va être ma proposition, cette brève encyclopédie du monde se propose donc d'aller voir ici, là, ailleurs, et vous verrez au fur et à mesure, ce qu'on peut dire du monde, et ce que disant du monde, eh bien, on peut aussi surtout en faire. L'intérêt de la philosophie, c'est pas seulement de décrire le réel, c'est aussi de dire, après que ce réel eût été décrit, ce qu'on peut faire dans ce réel-là, explicitement. Au départ, c'est-à-dire à la publication de Cosmos, j'avais annoncé trois livres. Et en fait, cette trilogie est devenue une tétralogie, c'est-à-dire quatre volumes. Et il y a Cosmos, il y aura Décadence, il y aura Sagesse et il y aura Politique. C'est-à-dire que Cosmos est écrit, il est sous-titré Une ontologie matérialiste, et c'est une philosophie de la nature. Ontologie, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, c'est la philosophie de l'être en tant qu'être. J'ai sur ce bureau des livres, si vous supprimez la forme, la couleur de ces livres, eh bien il vous reste l'idée des livres. Si on se retrouve dans le désert et que je vous parle d'un livre, alors qu'il n'y a pas de livre, vous saurez ce qu'est un livre, parce que vous aurez l'idée du livre. Eh bien, l'ontologie, c'est la discipline qui s'occupe des idées, c'est-à-dire qui s'occupe du monde quand le monde a été effacé. C'est apparemment compliqué, mais c'est extrêmement simple. On ne fait que ça. On fait de l'ontologie régulièrement parce qu'on parle de l'amour et on n'a jamais vu l'amour, parce qu'on parle de l'amitié, on n'a jamais vu l'amitié, on parle de la mort, on n'a jamais vu la mort. On a vu des gestes amoureux, on a vu des gestes amicaux, on a vu des gens mourir, mais on n'a jamais vu les idées en tant que telles, mais on s'en sert et elles existent. Donc je propose une ontologie matérialiste, et là aussi, C'est une espèce d'oxymore, puisque l'ontologie, c'est la science des idées. Et par définition, l'idée, elle est invisible. Elle est purement verbale. Elle est mouvement de voix. Et si elle est matérialiste, elle est visible. Donc je propose effectivement une philosophie de l'être en tant que cet être est visible. Pas question chez moi de trouver une transcendance qui nous conduirait vers un au-delà et qui nous dirait que cet au-delà fait le sens ou donne le sens de cet ici-bas. Ça, c'est la religion. La religion nous dit toujours, il y a un monde, mais le vrai monde n'est pas ce monde. Ce que vous voyez est une fiction. Et la vraie réalité, elle est en dehors de la réalité. Ce que nous vivons à l'instant est une illusion. C'est une fiction, dit Platon. Parce que ce qui a lieu, c'est le monde des idées, et nous, c'est rien. C'est du sensible. C'est du matériel, c'est du périssable. Moi, j'inverse les perspectives en disant non, et je ne suis pas le seul, hein, je veux dire, je vous ai enseigné 25 siècles de philosophie, de renversement d'une certaine manière du platonisme, même si on ne peut pas renverser le platonisme quand il n'existe pas, et à l'époque des présocratiques, on ne renverse pas encore le platonisme. Mais ma proposition, elle est effectivement de dire il y a un monde. Et Nietzsche reprenait cette phrase d'Albert Lange, contente-toi du monde donné. Contente-toi du monde donné. Le livre qui suivra s'appellera Décadence, il s'appelle dès à présent Décadence, il est déjà sous-titré « Vie et mort du judéo-christianisme ». C'est une philosophie de l'histoire, et de la même manière que Cosmos se propose de vous dire « nous sommes dans un cosmos et il s'agit de retrouver le sens de ce cosmos, allez à la recherche du cosmos et vous verrez qu'il est au centre de vous, et mettez-vous en accord avec ce cosmos », c'est d'une certaine manière ce que je dirais pendant un an, donc vous pouvez partir si vous n'avez pas envie des développements plus précis. Mais sinon, je développerai ça précisément. Eh bien, ce que propose Décadence, c'est de dire que nous sommes dans une histoire et que cette histoire, elle est mortelle aussi, que, comme nous, l'histoire est mortelle. Il y a un vieux logiciel marxiste qui nous dit que, et ce logiciel marxiste est une espèce de version améliorée du logiciel chrétien, que nous allons vers une réalisation pour le christianisme, ce qu'on appelle ça la parousie, c'est-à-dire l'arrivée du Messie et sa domination pendant 1000 ans sur le monde. Au moins, eh bien, les marxistes le pensaient également, c'est-à-dire la victoire du prolétariat qui aurait réalisé un communisme qui aurait pacifié l'humanité, disparition de l'histoire, etc. Ça, c'est une lecture qui nous encombre parce qu'elle fait fi de la réalité. Il y a chez Rousseau, grand penseur dangereux, cette formule extraordinaire, « commençons par écarter les faits ». C'est extraordinaire. C'est-à-dire les philosophes qui disent « commençons par écarter les faits ». Eh bien, on y est encore, hein, toujours. « Commençons par écarter les faits », c'est-à-dire « amenons les idées, donc faisons rentrer l'idéologie ». Moi, je fais l'inverse. « Commençons par écarter les idées et allons voir les faits ».« Commençons par écarter l'idéologie et allons voir les faits ». Les faits, vous avez voyagé. Vous voyagerez et je vous souhaite d'avoir fait tel ou tel voyage qui vous aurait amené au pied des pyramides en Égypte, qui vous aurait amené sur le Forum à Rome, qui vous aurait amené au Parthénon à Athènes, qui vous aurait emmené à Stonehenge, par exemple, ou dans les endroits où vous auriez pu voir des vestiges des civilisations aztèques ou incas. On le voit, il y a des faits. Ces civilisations ont été grandes, brillantes, magnifiques. Et elles ne sont plus, elles sont mortes. Et quand vous passez au pied des pyramides, vous avez des hommes qui passent là avec leurs petites charrettes et leurs ânes. Et puis ça cahote, ça va, ça vient. Et on a l'impression que cette civilisation d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la civilisation des pharaons. Que produit l'Égypte d'aujourd'hui comme civilisation? Rien, mais nous non plus. Et il y a une civilisation européenne dont nous participons. Et cette civilisation européenne, elle n'a pas produit grand-chose depuis bien longtemps. Elle a produit des choses. Quand vous regardez une carte de l'Europe au XIIe siècle et que vous regardez le nombre d'abbayes cisterciennes, seulement les abbayes cisterciennes, l'implantation des abbayes cisterciennes, ça pullule. Ça pullule. Il faut moins de 10 ans à Guillaume le Conquérant pour construire l'abbaye aux hommes. On est toujours en train d'essayer de finir la Sagrada Familia à Barcelone. Il y a un mouvement de l'histoire, et ce mouvement de l'histoire, il suppose que les civilisations se remplacent, que les civilisations sont des forces, et que ces civilisations qui sont des forces, elles sont remplacées par d'autres civilisations qui sont des forces plus fortes, et que l'Égypte a disparu. Avant, il y avait eu Assur, Sumer, Babylone, puis l'Égypte, et puis la Grèce, et puis Rome, et puis l'Europe. Et puis l'Europe, c'est fini. Ça s'en va, ça s'effondre, et parfois, plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, nous réfléchirons sur cette question. La décadence. Et puis, nous envisagerons 6 ans, sagesse, mais je m'étonne de me projeter si loin dans l'avenir, parce que là j'aurai l'âge de la retraite dépassée, encore que nous allons bientôt travailler jusqu'à 75 ans. La gauche va nous proposer ça, comme un horizon indépassable, et le livre s'appellera Sagesse. Sagesse, pas au pluriel, Sagesse. Parce que, d'abord, je suis un fils de Gerfagnon, mon vieux maître de philosophie antique, et que, à 17 ans, quand j'arrive à l'université, je crois effectivement que le christianisme est l'horizon indépassable, parce que je n'ai connu que ça. Et Lucien Gerfagnon m'apprend que, ben non, finalement, il y a eu aussi des civilisations avant, ce qui me permet d'imaginer qu'il y a des civilisations après, et que le pré-christianisme permet de penser le post-christianisme. Et je me découvre plus romain que grec. Il y a une philosophie grecque, il y a une pensée grecque, il y a des Platons, il y a des Aristotes, bien sûr, mais je n'ai jamais trouvé mon plaisir dans cette philosophie qui, justement, est une philosophie idéaliste, qui nous fait savoir que l'idée est supérieure au réel, que le réel est très trivial. Et puis, quand on passe à Rome, c'est exactement l'inverse. Il n'y a que des philosophes concrets. Donc, pas de philosophes, nous dit la tradition philosophique, puisque ils sont tout juste bons, les Romains, à faire des égouts, à faire à construire des bâtiments, le Cloaca Maxima, ou les bâtiments qu'on voit sur le forum. Ils ont des grands ingénieurs agronomes, ils ont des grands architectes, ils ont Vitruve, ils ont Columelle, ils ont tous ces gens-là, c'est très bien. Mais les quelques philosophes qu'ils ont, Lucrèce, Cicéron, finalement, sont des gens qui, pour Cicéron, reprennent le stoïcisme, pour Lucrèce, reprennent l'épicurisme grec, et puis voilà bien. Or, c'est pas du tout le cas. L'épicurisme romain n'est pas l'épicurisme grec. Et il y a chez les philosophes de l'Antiquité des sagesses pratiques, des leçons de sagesse pratique. Voilà pourquoi, après une philosophie de la nature, après une philosophie de l'histoire, il y aura une philosophie pratique. Et cette philosophie pratique, elle sera tout simplement présentée sur le mode du être, naître, vieillir, aimer, souffrir, mourir, disparaître. La vie d'un homme. Faut-il faire des enfants? N'en faut-il pas faire? Le mieux est-il de ne pas naître? Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu quelqu'un qu'on aime? Qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir? Etc., etc. Toutes questions posées par les philosophes romains. Et puis le dernier temps, auquel je ne travaille pas encore, même si je travaille aux autres livres en même temps, mais celui-ci, j'ai quelques esquisses. J'ai commencé par des réflexions qui m'ont semblé non pertinentes sur une réflexion sur le pourquoi les révolutions échouent-elles toujours. Pourquoi est-ce que 1789, qui est magnifique, débouche sur Robespierre? Pourquoi est-ce que 1917, qui est extraordinaire, débouche sur le Goulag? Pourquoi est-ce que mai 68, qui est fantastique, débouche sur Pompidou? Pourquoi le 10 mai 81 débouche sur Mitterrand? Ou pourquoi tous ces espoirs de gauche ont généré des choses terribles et très, très en contradiction avec ce qui a été généré? Pourquoi la beauté des révolutions se termine toujours dans le sang? Et puis je me suis dit, finalement, l'accélération d'une espèce de néo-fascisme contemporain nous fait voir qu'il faudra désormais compter avec d'autres pouvoirs. L'ennemi aujourd'hui, c'est pas tant le capitalisme que les mensonges des médias, les mensonges d'Internet, les propagandes diverses et multiples, les mensonges de ceux qui critiquent les mensonges. Ce qui fait qu'effectivement, ce qui advient, c'est ce qu'on appelle le nihilisme. Plus de vérité, nulle part. Vous dites la vérité, vous pesez aussi lourd que quelqu'un qui dit des mensonges. Dès lors, la politique, ce sera ça. Il faudra réfléchir non plus sur le contrat social de Rousseau ou la République de Platon, il faudra non plus réfléchir sur, je sais pas, le Léviathan de Hobbes ou sur le Prince de Machiavel, il faudra réfléchir sur 1984 d'Orwell, ou sur le meilleur des mondes de Huxley. C'est ce qui nous attend, aurais-je pu dire il y a quelques mois, je dirais autrement aujourd'hui, c'est ce qui advient. Et ce texte politique sera une réflexion sur un tout petit texte dont j'ai déjà beaucoup parlé, un tout petit texte de la Boétie qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire ». Et ce sera une invitation à voir que le pire est désormais certain et que dans la certitude du pire, il ne nous reste plus que l'élégance de la résistance. Voilà à quoi ça devrait ressembler si le Dieu auquel je ne crois pas me prête vie et si nous allons jusqu'au bout de ce séminaire qui nous permettra donc cette fameuse brève encyclopédie du monde. Je réactiverai la méthode qui est la mienne depuis le début. J'ai eu des cours de méthode quand je suis allé à la Sorbonne pour faire ma thèse. On avait un cours de méthodologie et on m'a jamais appris quoi que ce soit qui soit un cours de méthodologie. J'ai jamais appris à lire, à écrire, à penser, à construire un propos, un argument, etc., etc. Les profs, il s'agissait à l'époque de Pierre Boutang, ancien secrétaire de Charles Maurras, voilà pourquoi je suis ce que je suis, qui parlait de ce qui l'intéressait, de Nicolas de Cuse, etc., mais jamais de méthode. On ne parle jamais de méthode. C'est dommage, parce que le travail du philosophe est un travail de généalogiste. Plus que jamais. Le travail du journaliste, c'est le contraire. C'est de mettre en évidence l'instant, le pur instant, et laisser croire qu'en répétant l'instant, on fait du temps, on construit de la durée, et on fabrique du sens. En répétant l'instant, on ne fait que répéter l'instant. Le travail du philosophe consiste à dire, quand quelque chose advient, d'où ça vient. Quelles sont les causes qui ont produit ces effets? Ça marche pour le terrorisme, ça marche pour l'illettrisme, ça marche pour l'art contemporain. Pourquoi en sommes-nous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça, c'est le questionnement philosophique. Ces temps-ci, le questionnement philosophique n'est plus possible. On vous dit de ne pas poser de questions et on vous dit de donner des réponses particulières aux questions que vous ne vous posez même pas. Donc le philosophe qui lui pose des questions et avance des réponses est effectivement nul et non avenu. Si je suis dans cette perspective, c'est parce que je suis dans une logique nietzschéenne. C'est Nietzsche qui révolutionne l'histoire de la philosophie et qui d'un seul coup, quand il nous dit Dieu est mort, évidemment, ça c'est très bien ça pour le journal de 20 heures, mais c'est pas ça qui est intéressant chez Nietzsche, la mort de Dieu. C'est qu'après la mort de Dieu, Nietzsche nous dit, eh bien, désormais, il va falloir poser la question de la généalogie. Il écrit un livre qui s'appelle « Généalogie de la morale » et qui nous dit, maintenant, le philosophe, c'est celui qui se demande pourquoi ce qui est dit bien est bien. Pourquoi ce qui est dit mal est mal. Pourquoi ce qui est dit bon l'est, etc. et dit bon l'est, etc. Pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés au point de dire, oui, ceci, c'est le vrai, ceci, c'est le bon, ceci, c'est le juste, etc., etc. Et ce travail généalogique, il n'a cessé de me préoccuper depuis que la philosophie m'intéresse. Mais je dirais, c'est le travail des enfants. Et j'ai toujours dit que les enfants naissaient philosophes et que seuls ceux qui demeuraient enfants pouvaient dire qu'ils étaient devenus philosophes. On me demande parfois comment je suis devenu philosophe. Je dis, je suis resté enfant. C'est-à-dire, les enfants posent toujours des questions. Ils se demandent pourquoi. Pourquoi la nuit fait noir? Pourquoi l'eau s'amouille? Pourquoi le grand-père est mort? Pourquoi le petit chat n'est plus là et qu'il est mort lui aussi, etc., etc. Les parents répondent à ces questions parfois, puis parfois ils répondent plus parce que c'est trop compliqué ou parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels. Et puis à un moment donné où à l'école on vous dit, eh bien, vous vous posiez des questions, on pouvait vous donner des réponses jadis, maintenant vous vous posez plus de questions mais on va vous donner les réponses quand même. Et à l'école on vous apprend des choses inutiles. Le PNB de l'Autriche, le débit du Rhin, ou enfin des choses dont on ne se serait jamais dit a priori quand on était enfant. J'aimerais beaucoup savoir quel est le tonnage de la production d'acier de l'Ukraine. Voilà des choses vraiment qu'on ne s'est jamais posées. Pourtant, on s'est posé plein de questions. Et donc, il y a un moment donné où on se pose des questions, on a les réponses. À un moment donné où on ne se pose plus les questions, mais on a quand même les réponses. Puis à un moment donné où vous ne savez plus pourquoi, mais on vous donne des réponses en vous disant qu'il faut les apprendre, les aimer, les chérir et les répéter sans cesse. Et vous ne savez même plus pourquoi. Le philosophe, c'est celui qui est dans la logique généalogique. C'est celui qui dit « ne prenez jamais rien pour argent comptant ». Ni ce que je vous dis, non plus. C'est-à-dire, examinez-le, passez-le à la critique. La critique renvoie au crible. Et le crible, c'est ce qui permet de séparer. Séparer le sable des pierres, séparer le sable de l'or, par exemple, ou des pépites. Faire sans cesse ce travail de critique. C'est-à-dire faire sans cesse ce travail de généalogie. Toujours vous demander d'où ça vient. Et quand vous avez trouvé d'où ça venait, demandez-vous d'où vient ce qui vous permet de dire que ça vient de là. Ce travail généalogique, c'est le travail nietzschéen. C'est aussi ma méthode, outre la généalogie, cette mise en perspective des relations entre la vie d'un philosophe et l'œuvre d'un philosophe. Et ça, vous verrez avec les philosophes romains, que pendant l'Antiquité, un philosophe, c'est pas quelqu'un qui théorise, c'est pas quelqu'un qui écrit des livres, c'est pas quelqu'un qui donne des cours, c'est pas quelqu'un qui va à la télévision. C'est quelqu'un qui mène une vie philosophique. Et en ce sens, on n'a pas besoin d'être un philosophe, d'être agrégé, d'être agrégatif, d'être docteur, doctorant, ou d'avoir écrit des livres de philosophie. Il suffit simplement de se dire « je pense ce que je vis ce que je pense ». Et cette façon de voir les choses, elle m'a paru extrêmement intéressante. C'est une deuxième révolution dans l'histoire des idées, parce que si vous avez ce critère, Alors, les philosophes du devant de la scène ne sont pas ceux du derrière de la scène, de l'arrière de la scène. On a mis en avant un certain nombre de gens qui ont bien pensé des choses qu'ils n'ont jamais vécues, qui ont bien pensé des idées impraticables, qui ont fait des beaux systèmes, mais des systèmes invivables. Et ce sont ceux-là souvent qu'on a chéris, alors que d'autres, plus modestes, plus discrets, sont présentés comme des petits philosophes ou comme des philosophes mineurs. Et simplement, ce sont des gens qui ont été des philosophes majeurs parce qu'ils ont pensé à hauteur d'homme. Et ils se sont dit, je ne propose pas une idée si cette idée n'est pas viable. Je ne me permets pas d'enseigner des choses si je ne suis pas moi-même capable de les vivre. Il y a dans ces gens-là des gens comme Albert Camus. Et il y a des gens aussi comme Friedrich Nietzsche. Nietzsche est quelqu'un qui a mis en perspective sa vie, son œuvre, sa pensée, etc. C'est-à-dire que dans ces 13 années, j'ai toujours mis en perspective l'œuvre complète que j'ai invité à lire ou que je me suis proposé de lire du début jusqu'à la fin, de manière chronologique, les œuvres de jeunesse, les dernières œuvres. J'ai ajouté les fragments posthumes ou les œuvres pas publiées, tout en sachant que c'était des fragments posthumes, donc c'est pas du tout la même chose. Un philosophe qui a donné son accord pour que son propos soit édité dans un livre, il peut être retenu comme, enfin, il peut être considéré comme coupable ou responsable de ce qu'il écrit, pas des petits papiers qu'il a laissés sur son bureau, et dont on prétend qu'ils ont la même teneur idéologique ou philosophique que les œuvres publiées. Les fragments posthumes de Nietzsche, c'est à peu près 10 ou 11 volumes de 400 pages. C'est-à-dire qu'on peut tout faire dire à Nietzsche et le contraire de tout quand on prend les fragments posthumes. Donc moi, je me suis contenté, pour les philosophes, bien que je prenne connaissance des fragments posthumes, des vies et des œuvres et des correspondances. Aujourd'hui, il n'y a plus de correspondances, mais à l'époque, on prenait son temps. La correspondance de Voltaire, c'est une dizaine de volumes de Pléiade. Ce sont des choses dans lesquelles on s'exprime vraiment, réellement, concrètement. Et on peut mettre en perspective les correspondances et puis ce qui est vécu. Quand on voit ce que Sartre raconte de sa résistance, entre guillemets, ou Simone de Beauvoir, de leur résistance, entre guillemets, et ce que leur correspondance raconte, on se dit, effectivement, des gens qui travaillent à Radio Paris, qui travaillent ou qui écrivent dans Comédia des revues collaborationnistes et qui en même temps font l'éloge de l'engagement, ne sont pas forcément très crédibles. Ce n'est pas le cas de Camus, qui, lui, écrivait peut-être moins haut d'un point de vue philosophique, mais au moins vivait ce qu'il enseignait. Donc ma proposition, c'est de mettre en perspective, autant que faire se peut, les vies, les œuvres, les biographies, les correspondances, etc. J'ai pu le faire plus facilement au fur et à mesure que le temps passait, parce que effectivement, on avait des correspondances. Le CIP, on ne sait pas qui il est. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Le premier philosophe dont j'ai parlé en 2002. Et donc, évidemment, j'ai fait aussi un cours sur un fragment. Donc, on a juste un nom, on a juste un fragment, et on tient une heure tout de même. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de penser véritablement le CIP que de faire un cours sur éventuellement Robert Misrahi, puisqu'il est toujours vivant et qu'on peut éventuellement discuter de telle ou telle œuvre. Donc au fur et à mesure, ma méthode s'est trouvée plus pertinente parce qu'on disposait de plus d'informations biographiques. Cette méthode, Nietzsche en parle à plusieurs reprises. Je voudrais vous lire plusieurs textes. La première fois où il en parle, c'est dans une lettre à Lou Salomé, datée du 16 septembre 1882. Il dit à Lou Salomé, qui a envie de faire un livre sur Nietzsche, qu'elle fera d'ailleurs, elle souhaite mettre en perspective justement la vie de Nietzsche, l'œuvre de Nietzsche, la pensée de Nietzsche. Nietzsche lui écrit « Votre idée de ramener les systèmes philosophiques aux actes personnels de leurs auteurs est vraiment l'idée d'une âme sœur. Moi-même, à Bâle, j'ai enseigné dans ce sens l'histoire de la philosophie antique et je disais volontiers à mes auditeurs « Ce système est réfuté, est mort, mais la personnalité qui se trouve derrière lui est irréfutable. » Il est impossible de le tuer. Par exemple, Platon. Un peu plus tard, un ami qui s'appelle Overbeck, il écrit à l'été 1883, « Vu ma façon de penser et les principes auxquels aboutit ma philosophie, il faut même que ma victoire soit complète, c'est-à-dire que je dois transformer en or et en projet de premier ordre les expériences que j'ai vécues. » Transformer en or et en projet de premier ordre les expériences que j'ai vécues. Ça, je vous le proposerai. Je vous parlerai de la façon dont moi je m'essaie à ce projet nietzschéen, et en même temps ce ne sera pas une espèce d'exposition personnelle, mais juste une invitation à ce que vous-même, vous puissiez transformer en or et en projet de premier ordre les expériences que vous aurez vécues. Et puis il y a un texte auquel je fais souvent référence, qui est la préface au Gai Savoir, ça c'est une petite fleur que j'ai cueillie sur la tombe de René Char, qui est dans la préface du Gai Savoir et qui nous dit ce texte. Pourvu que l'on soit une personne, on a nécessairement la philosophie de sa propre personne. Cependant, il y a là une notable différence. Chez l'un, ce sont ses manques qui se mettent à philosopher. Chez un autre, ses richesses et ses forces. Pour le premier, sa philosophie est une nécessité en tant que soutien, apaisement, médicament, délivrance, élévation, détachement de soi-même. Pour le second, elle n'est qu'un beau luxe. Dans le meilleur des cas, la volupté d'une triomphante reconnaissance qui, pour finir, doit encore s'inscrire en capital cosmique sur le firmament des notions. Dans l'autre cas, plus ordinaire, quand c'est la détresse qui fait de la philosophie comme chez tous les penseurs malades, et peut-être les penseurs malades sont-ils prépondérants dans l'histoire de la philosophie, que deviendra la pensée elle-même soumise à la pression de la maladie? Et puis cet autre texte, alors on est avant Freud, bien évidemment, et quand je dis que tout ce qui est intéressant chez Freud est pris chez Nietzsche, vous verrez que cette idée du travestissement inconscient, elle est déjà chez lui en 1880, dans les années 1880. Le travestissement inconscient de besoins physiologiques sous les masques de l'objectivité, de l'idée, de la pure intellectualité est capable de prendre des proportions effarantes. Et je me suis demandé assez souvent si, tout compte fait, la philosophie jusqu'alors n'aurait pas absolument consisté en une exégèse du corps, en un malentendu du corps. Derrière les suprêmes jugements de valeur où l'histoire de la pensée avait été dirigée jusqu'à maintenant, se dissimulent des malentendus en matière de constitution physique, soit de la part d'individus isolés, soit de la part de classes sociales ou de races tout entières. Il est légitime de considérer les audacieuses folies de la métaphysique, et particulièrement les réponses qu'elle donne à la question de la valeur de l'existence, tout d'abord comme autant de symptômes de constitution corporelle propre à certains individus. Et si de pareilles évaluations positives ou négatives du monde ne contiennent, du point de vue scientifique, pas le moindre grain de réalité, elles n'en fournissent pas moins à l'historien et au psychologue de précieux indices en tant que symptômes, comme je l'ai dit, de la constitution viable ou manquée du corps, de son abondance et de sa puissance vitale, de sa souveraineté dans l'histoire ou, au contraire, de ses malaises, de ses épuisements, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté de finir. Ces deux textes disent qu'il y a effectivement une relation entre la biographie et la pensée, mais pas comme le disent ceux qui critiquent cette idée-là. Ceux qui pensent qu'en appeler à la biographie, c'est tout de suite rabattre le sublime sur du médiocre, se trompent. C'est pas aussi simple, et Nietzsche le dit. Il ne dit pas « on pense systématiquement ce qu'on est, on pense parfois aussi le contraire de ce que l'on est, le contraire de ce que l'on est, c'est aussi ce que l'on est, ça fait aussi partie de ce que l'on est ». C'est donc un écheveau subtil qu'il faut démêler quand on s'occupe de lire un penseur, de lire une pensée. Il faut mettre en perspective effectivement l'œuvre complète et la biographie pour comprendre ce qui advient dans l'œuvre de quelqu'un. Pourquoi un concept arrive un jour sous la plume d'un philosophe. C'est-à-dire que si mon ontologie est matérialiste, c'est justement parce que je propose des concepts, donc ontologie, mais de manière matérialiste, parce qu'ils procèdent tous, ces concepts, d'une expérience, d'une autobiographie. Et ça, je l'ai fait un peu malgré moi, et grâce à mon éditeur, quand j'ai envoyé mon manuscrit par la poste en 88, on n'a d'abord pas cru que j'étais moi, et on a cru que je cachais quelqu'un, et quand j'ai passé quelques épreuves pour qu'ils finissent par comprendre que c'était bien moi qui écrivais mes livres, ma vie semblait extravagante à mon directeur littéraire. Il ne savait pas qu'en dehors du 6e arrondissement, il y avait un monde. Les sauvages au bord de la forêt ne peuvent pas imaginer que quelque chose existe en dehors. Ils pensaient que la Normandie, ça n'existait pas, qu'Argentan, ça n'existait pas, et qu'on ne pouvait pas, quand on était ni agrégé, ni normalien, ni fils d'évêque, écrire des manuscrits qui soient susceptibles d'être publiés un jour. Et devant tant d'extravagances biographiques, il m'a dit « écrivez ça ». Il a cru que, j'allais dire qu'on ferait du Zola, mais oui, évidemment, on ferait du Zola. Et c'était mon premier livre, qui s'appelait « Diogène cannibale », et qui mettait en perspective justement ce que les philosophes disaient de la nourriture et ce qu'ils disaient de philosophique. Tout se tenant, d'une certaine manière, quand Nietzsche est nietzschéen, il l'est aussi dans la nourriture. Même chose avec Sartre, même chose avec Fourier, même chose avec Marinetti, même chose avec Diogène, enfin tous ces gens auxquels j'avais consacré un chapitre. Et le texte n'était pas important d'un point de vue du nombre de signes, et il m'a dit, écrivez ça, écrivez votre histoire. Et puis faites quelque chose qui vous raconterait dans votre relation vous-même à la nourriture. Ça s'est appelé autobiographie alimentaire. Et c'est devenu une espèce de présentation, mais c'était bien vu de la part de mon éditeur, c'est devenu une présentation matérialiste des concepts que je proposais. Et effectivement, quand je racontais mon enfance, le jardin potager de mon père, la bonne cuisine de ma mère, je mettais en perspective effectivement ce que je pensais de la cuisine avec une réalité extrêmement concrète. Un potager, des odeurs de bonne cuisine dans la maison. Et d'une certaine manière, tous mes livres importants, quand j'estime qu'ils sont importants, c'est-à-dire pour moi, qui me permettent de faire le point sur moi-même, eh bien, ce sont des livres qui ont été précédés par des textes autobiographiques, parce que finalement, l'autobiographie est une généalogie. La généalogie dont je vous parlais tout à l'heure, dans la mesure où elle est nietzschéenne, est une autobiographie. Donc il ne s'agit pas de la complaisance à soi-même, de l'égotisme, en disant « je parle de moi parce que je m'aime et que je me raconte », je dis juste que des expériences que je rapporte sont des expériences qui touchent mes lecteurs et qu'on ne peut pas écarter les lecteurs si on écrit. Il faut justement leur dire « moi j'ai vécu ça et vous, d'une certaine manière, vous avez un peu vécu la même chose, je suis sûr ». Quand je raconte la mort de mon père, j'ai reçu un nombre considérable de lettres me disant, comme si c'était une nouvelle étonnante, moi aussi j'ai perdu mon père. Et je dis, bah oui, mais on en est tous là, on l'a perdu ou on le perdra. Et chacun se trouvait concerné par mon histoire et d'une certaine manière entrait dans mon livre en se disant, mais les deuils, on est tous concernés par ça, je suis moi-même concerné par ça, donc je vais y trouver mon compte. Donc je crois qu'il y a aussi une politesse intellectuelle dans l'autobiographie quand elle n'est pas complaisante, parce que on dit d'où viennent les concepts. Des concepts ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas dans un ciel des idées. Ils ne sont pas, comme Platon le croit, dans un monde intelligible qui serait le seul monde vrai. Mais les concepts, ils sortent de terre. Ils montent d'un corps. Et c'est ce que dit Nietzsche. C'est une biographie qui nous permet d'arriver un jour à ceci plutôt qu'à cela. Il y a un concept intéressant chez Nietzsche qui relève de la médecine, mais il en fait un concept philosophique qui est le concept d'idiosyncrasie. Et l'idiosyncrasie, c'est ce qui fait qu'on a le corps qu'on a, et on n'en a pas un autre. Et si on pense, et qu'on pense en homme libre, eh bien, on se retrouve dans des sensibilités particulières, et on ne le choisit pas. On peut pas, alors qu'on est dans une mystique de gauche, celle que je raconte dans Politique du Rebelle, se retrouver un jour dans une mystique de droite, ou alors c'est qu'on a changé de corps, c'est qu'on a changé d'âme, ou c'est qu'on faisait semblant, ou c'est qu'on était dans la posture. Si on n'est pas dans la posture, mais qu'on est viscéralement dans ce que j'appelais la mystique de gauche, eh bien, effectivement, on est du côté des petits, du peuple, des sans-grades, des oubliés, des gens qui se prennent toujours les coups sur la figure. Et j'ai raconté ça, donc, dans, par exemple, Politique du Rebelle. J'avais fait un texte, je faisais l'éloge de la pensée libertaire, pensée à laquelle je souscris toujours, et j'avais appelé ça physiologie du corps politique, justement, physiologie du corps politique, parce que le métier de mon père, ouvrier agricole, le métier de ma mère, femme de ménage, le métier de mon frère, qui travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, le métier de ma belle-sœur, qui est cantinière, et le métier des gens qui travaillaient dans la fromagerie où j'ai de temps en temps travaillé de manière saisonnière, ces métiers-là m'ont montré qu'il y avait une physiologie, un corps qui souffrait. Et que la politique, elle ne se pensait pas à partir de Rousseau, de Marx, ou de Tocqueville, mais qu'elle se pense quand on voit le réel et qu'on n'écarte pas les faits, et qu'on est fidèle au réel. Donc il y avait cette autobiographie alimentaire, j'ai dit la même chose avec Cynisme, qui est un livre que j'ai écrit en 1990, je crois, qui est le livre qui a suivi le ventre des philosophes, et qui était l'occasion pour moi de célébrer Diogène. Je suis resté fidèle à Diogène, parce que c'est un philosophe qui m'agrée absolument, et j'ai découvert ce philosophe-là grâce à Lucien Gerfagnon, et donc je raconte ma rencontre avec Lucien Gerfagnon et l'ouverture s'appelait « La philosophie, le maître et la vie ». J'ai fait un infarctus aussi dans les années je ne sais plus quoi, 87, quelque chose comme ça. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art de jouir », qui était une façon de me moquer d'un précédent livre qui s'appelait « L'art de jouir » et qui était écrit par un philosophe qui s'appelait Julien Onfray de la Mettrie. Donc je lui disais « je lui pique son nom, je peux bien lui piquer son titre ». Et j'avais appelé ça « généalogie de ma morale ». Déjà, perspective nietzschéenne en disant « quand on frôle la mort, on ne pense plus pareillement la vie ». Donc, d'une certaine manière, je crois qu'il faudrait regarder, mais l'art de jouir, c'est pratiquement le plan de la contre-histoire de la philosophie. Je disais, voilà, il y a des philosophes qui nous aident à vivre, et puis d'autres, pas. et je faisais l'éloge de ces philosophes hédonistes. La sculpture de soi est précédée par un texte qui s'appelle Pérégrination en quête d'une figure, et j'avais été fasciné, je le suis toujours d'ailleurs, par une statue, la statue équestre de Bartolomeo Colleoni, si vous allez à Venise, et il y a une toute petite place Piazza San Zanipolo, et il y a ce condottiere magnifique, et quelque chose dans la posture de ce corps, c'est une statue de Verrocchio, Bartolomeo Colleoni, qui est un personnage guerrier, mi-guerrier, mi-intellectuel, comme ça se faisait à l'époque, et je cherche quelque chose qui serait une espèce de figure nietzschéenne que je ne trouve pas. Sur les lieux de Nietzsche, j'étais assis à Maria, et en voiture, et je suis descendu, c'est pas très loin, il fait très froid, c'est très allemand, à 20h on peut même plus se faire servir une soupe, à 20h01, parce qu'on l'a servait jusqu'à 20h, et donc je suis descendu dans un petit village italien, une heure plus tard, il y a du melon, et il y a du jambon, et il y a du vin frais, et des enfants qui courent pieds nus autour des fontaines, et jusqu'à minuit, et je me suis retrouvé dans une ville italienne où le lendemain, en faisant un tour dans l'église, j'ai découvert qu'il y avait là, dans la petite église, la sépulture de Bartolomeo Colleoni. Je partais sur les traces de Nietzsche à Sils Maria pour trouver une figure nietzschéenne. Je ne l'ai pas trouvée à Sils Maria, mais je l'ai trouvée quelques kilomètres plus loin en Italie. Donc je racontais cette histoire-là dans la sculpture de soi. Dans Féeries anatomiques, il y a un texte qui s'appelle « Tumeur », en un seul mot, la tumeur, une tumeur. C'était le cancer de ma compagne, qui a été l'occasion pour moi de réfléchir sur la bioéthique. Donc j'ai parlé d'un certain nombre de choses, du génie génétique à l'euthanasie, en passant par les soins palliatifs, etc. Mais à partir de cette expérience éminemment concrète, et puis etc., etc. Et dans « Cosmos », Le texte s'appelle « Le cosmos nous réunira » et c'est un texte qui parle de la mort de mon père. Je voudrais, à partir de cette expérience, la mort de mon père, répondre à cette question « Qu'est-ce qu'avoir un père ?» Qu'est-ce qu'être un père aussi, hein, mais qu'est-ce qu'avoir un père ? Et je vous en parle d'autant plus, de manière d'autant plus émue, qu'aujourd'hui, très précisément, ça fait 6 ans que mon père est mort, ce jour-là, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Ça a été un moment généalogique, parce qu'on apprend des choses dans des moments comme cela, et c'est ensuite, quand on a appris, qu'on veut savoir ce qu'on a appris. Et je vais vous raconter ce que j'ai saisi, ce que j'ai appris, et pourquoi Cosmos est le livre qui tâche de donner forme à ce que j'apprends à ce moment-là. Quand je suis né, j'avais un vieux papa qui avait 38 ans. Alors aujourd'hui, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est comme le divorce. Dans l'école où j'étais, il y avait un fils de divorcé qu'on regardait comme une espèce de chose à peu près étrange. Je pense qu'aujourd'hui, dans la même école, il doit y avoir un fils de non-divorcé, et que donc les choses changent. Et il y a des vieux papas aujourd'hui, et c'est tant mieux. Sauf que on ne comprend pas ces choses-là de la même manière quand on a 10 ans et quand on a 20 ans de plus à ces 10 ans. Et quand on est un petit garçon, être fils de vieux, selon l'expression consacrée à l'époque, c'est un mot que j'aime bien, les vieux. Le politiquement correct nous interdit de l'utiliser. C'est un sans jeune, ou je sais pas quoi, ou un pas jeune, mais vieux on n'utilise pas. Or, vieux, c'est très beau, il y a une vraie sagesse. Et avoir un vieux père, c'est un problème quand on a 10 ans, puis en fait, c'est une bénédiction plus tard. Sauf qu'il faut le comprendre. C'est un problème parce que quand votre père vous amène à l'école, on considère, on vous dit, mais c'est votre grand-père, c'est ton grand-père. Et vous dites oui, et vous avez trahi votre père. Vous dites non, c'est mon père, et vous passez pour un fils de vieux, et les enfants sont terribles. Donc il faut composer avec cet âge. On a l'âge du père qui est un problème quand on a l'âge qu'on a. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, on se projette dans l'année qui suit éventuellement. Mais on dit, mais à 20 ans, à 25 ans, c'est des vieux. Donc à 38 ans, c'est un vieillard. À 40, c'est un fantôme. Donc on part avec cette idée-là. Et moi, c'était la mort qui a été mon problème. Quand j'étais petit garçon, la mort à les femmes, les filles. La mort, c'est réglé. Les filles, toujours pas. Je trouve que c'est toujours magique, les filles. Toujours mystérieux. La mort, non, c'est pas mystérieux. Ma question est, quand devient-on le fils de son père ? Et on devient le fils de son père quand on a compris un certain nombre de choses, c'est-à-dire quand on a compris qu'il fallait préférer la vie droite aux vies courbes. Simplement, quand on a le spectacle devant soi, et je parle de mon père, d'une vie droite, on a l'impression que toutes les vies sont droites. Des gens qui ne mentent pas, des gens qui ne trompent pas, des gens qui ne trahissent pas, des gens qui n'ont pas de double vie, les gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, les gens qui disent une chose et n'ont pas besoin de promettre parce que quand ils ont dit, ils ont promis, les gens qui, quand ils ont dit une chose, voient leurs paroles suivies des faits, ces gens-là sont rares. Mais c'est plus tard qu'on sait que c'est rare. C'est plus tard qu'on sait qu'il y a des vies qui sont des vies courbes et tordues. On est aussi le fils de son père quand on comprend qu'il y a des vies simples et qu'il y a des vies dans la mode. La vie simple, c'est une espèce de vie virgilienne. On est contemporain de Virgile. Presque dans le vêtement, je dirais. On peut même avoir des vêtements qui sont les vêtements qu'avaient les paysans il y a très longtemps. Et on est par exemple insensible à la mode. La mode, c'est ce qui se démode, par définition. De quoi on a l'air quand on regarde les photos de nous dans les années 70, dans les années 80, quand on avait les coiffures à la mode, quand on avait les lunettes à la mode, les vêtements à la mode, les pattes d'éléphant, les lunettes en forme de hublot d'avion, enfin de bateau. Et on se dit, j'ai suivi la mode. Et si on avait porté des lunettes comme celles de Proudhon, par exemple, on n'aurait pas l'air aussi ridicule, parce que ce qui échappe à la mode est de toujours. C'est intempestif, c'est inactuel, pour utiliser le vocabulaire de Nietzsche. On comprend également, on est le fils de son père quand on comprend ce qu'est la vie sobre, et c'est-à-dire le contraire de la vie dans le pathos. Rien n'interdit d'avoir des sentiments, évidemment. Mais quand j'étais jeune, je pensais que ne pas exprimer des sentiments, c'était n'en pas avoir. Et que si on ne disait pas qu'on aime, c'est qu'on n'aimait pas. Et j'ai compris par la suite que des gens disaient qu'ils aimaient alors qu'ils n'aimaient pas, et que des gens ne le disaient pas mais qu'ils aimaient tout de même. Cette sobriété, elle va de pair avec la parole rare, mais la parole qui compte, c'est-à-dire avec le poids des mots. On apprend que quand quelque chose est dit, c'est dit. Ce qui est dit, comme ce fut si souvent dit chez moi. On apprend aussi ce qu'est la vie virile. Et au contraire des vies infantiles. Viril, ça n'a rien à voir avec la testostérone, ça n'a rien à voir avec les moustaches et les poils, ça a à voir avec l'étymologie latine. Viril, c'est vir, c'est l'homme. Donc les femmes sont viriles. Certaines femmes sont viriles et sans moustache, certaines ont de la moustache, sont pas forcément viriles, certaines ont de la moustache et sont viriles, mais enfin, quand les femmes sont viriles, rien à voir avec le système pileux, ça a à voir avec le fait qu'elles sont humaines. Qu'elles sont humaines au sens romain, c'est-à-dire droite, verticale. La vie infantile, c'est terrible aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui des adultes avec des casques, ils écoutent de la musique, ils sont en Bermuda, ils font de la trottinette, ils vapotent et chantonnent, etc. Et on se dit, je n'ai heureusement jamais vu mon père en short ou en Bermuda. Heureusement. Ça vous fait un idéal du moi, comme dirait mon ami Freud. Et on voit aujourd'hui comment la vie infantile fait la loi. Revendiquer un peu de virilité, toujours au sens romain du terme, c'est tout de suite être un fasciste, un phallocrate, etc., etc. On peut juste dire non. Je crois qu'il y a une espèce de volonté de laisser parler en l'humain qui ne fait pas forcément de celui qui veut ça un machiste. Et cette vie virile est l'occasion de voir ce qu'est la force, qui est le contraire de la violence. La force, c'est une violence qui sait où elle va. La violence, c'est une force qui ne sait pas où elle va. Quand on est fort, on conduit sa violence. Quand on est violent, on est conduit par sa violence. Cet exemple-là est un exemple rare. On est aussi le fils de son père quand on a compris ce qu'est une vie fluide. Au contraire des vies chronométrées, qui sont souvent des vies schizophrènes, des vies de schizophrènes. Les gens ne sont pas les mêmes quand ils sont chez eux, quand ils sont avec leurs amis, quand ils sont au bureau, quand ils sont dans un endroit où personne ne les connaît, etc., etc. Et il y a des vies schizophrènes, des vies mutilées. La vie fluide, c'est la vie qui est la même tout le temps. On est avec le plus modeste des hommes, on est avec le plus puissant des empereurs ou des monarques, et on reste le même. C'est une vie fluide. C'est une vie qui n'est pas sociale ou sociologique. C'est une vie qui considère qu'on a en face de soi un homme, un humain, et pas une fonction. On est aussi le fils de son père quand on a compris qu'il fallait vouloir des vies authentiques et pas des vies falsifiées. Il y a des gens qui ont plein de choses à se reprocher. Et il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher. Vous pouvez très bien regarder, fouiller dans leur vie, et à chaque fois que vous découvrez quelque chose, c'est quelque chose de beau. À chaque fois que vous fouillez dans la vie de Camus, vous ne trouvez que des belles choses. Des silences qu'il aura entretenus justement pour éviter de se construire une statue de son vivant. Mais il a fait des choses, il n'a pas dit, il n'a pas raconté. Ce sont des gens qui parfois le disent aujourd'hui. Et donc cette vie authentique. On est aussi le fils de son père quand on accepte les transmissions. C'est-à-dire quand on a l'impression qu'on n'a rien à apprendre des anciens, alors on a tout perdu, on n'a rien compris. Il faut donc vouloir la vie avec les ancêtres contre la vie égotiste. La vie avec les ancêtres, ce n'est pas la vie avec les morts. Ce n'est pas la vie avec les anciens en disant « les anciens faisaient ça, donc ils avaient toujours raison ». Bien sûr que non. Mais c'est de savoir qu'on procède, qu'on ne descend pas de rien, qu'on n'est pas hors sol, qu'on n'est pas un égotiste qui pourrait imaginer qu'il est le seul au monde, qu'avant lui il n'y avait pas le monde, qu'après lui il n'y aura plus le monde, et qu'en dehors de lui il n'y a pas le monde. C'est simplement l'inscription dans un lignage. C'est savoir qu'on hérite, pas d'argent évidemment, mais enfin qu'on hérite d'un certain nombre de choses. Qu'on hérite simplement parce qu'on a déjà été un élève, et qu'on a appris à lire, à écrire, à compter, à penser, parce que des gens nous ont donné ça, des instituteurs, des parents, des grands-parents, et qu'on n'est rien sans les autres. C'est-à-dire accepter de s'inscrire dans un lignage. On est aussi un adulte, parce que finalement, accepter d'être le fils de son père, c'est accepter d'être adulte, quand on a un rapport avec le sacré, et pas du tout quand on est dans une logique de vie morte. Alors le sacré, il y a des gens qui, quand ils m'entendent prononcer ce mot, ont l'impression que ça y est, je suis pas loin du bénitier, et qu'il avait toujours dit qu'il s'en faut de peu, et que vu tous les virages que je fais, sans sortir de la route, il faudra bien que j'en fasse un qui me conduise à la chapelle. Eh bien, je dis non, le sacré n'a pas grand-chose à voir avec le sacré des religieux. Les religions ont un sacré, et c'est bien, mais c'est le leur. Et je respecte leur sacré. Quand mon oncle est décédé, que j'ai acheté sa maison, il y avait un crucifix au pied de son lit, et je n'ai pas jeté ce crucifix à la poubelle. C'était son sacré, c'est devenu le mien. On aurait pu dire c'est un morceau de bois, je le balance. Non, je l'ai gardé, j'ai voulu l'offrir à des gens pour qui ça signifiait quelque chose, parce que j'ai le sens du sacré. Le sacré, c'est ce qui est sacré pour ceux qui nous sont sacrés. Et le sens du sacré, on me l'a enseigné, sans trop savoir forcément pourquoi et comment, dans ce qui était le catholicisme païen de mes parents. J'appelle catholicisme païen quelque chose qui fait que, il y a le catholicisme, on va à la messe, il y a Dieu, oui, d'accord, mais il est païen aussi. C'est-à-dire que sans le savoir, et vous verrez, j'aurai l'occasion de développer ça dans un chapitre, mais tout ce qui fait le sacré du quotidien à l'Église, finalement recycle un sacré païen. Et le sacré païen, c'est le secret du jour et de la nuit, c'est le secret des saisons, c'est le secret de la succession des saisons, c'est le secret de la vie et de la mort. C'est le secret de l'inscription dans le cosmos, c'est le secret de l'ordre. Cosmos, en grec, ça veut dire ordre. Et il y avait un sacré. Il était transmis comme ça, du buis, des rameaux. J'apprends ce qu'est la fête des rogations. Je vois que les rogations ont à voir avec les champs, avec la fécondité, avec les blés, avec les épis qui mûrissent. Et effectivement, ça, c'est un sens du sacré. C'est un sacré païen. C'est pas un sacré chrétien, mais c'est un sacré païen. Et je plains les enfants à qui on n'aura pas transmis le sens du sacré. Nombre d'enfants qui sont aujourd'hui des enfants perdus sont des enfants à qui on n'a pas enseigné le sens du sacré et qui aujourd'hui le cherchent un peu partout et n'importe où. Il faut comprendre aussi ce qu'est la vie dans l'histoire, qui est le contraire de la vie des déracinés. La vie dans l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire on ne vient pas de rien. Et mes parents ont fait l'effort de m'offrir des cours chez une bonne de curé, qui s'appelait Mademoiselle Haye, et qui nous enseignait un certain nombre de choses. Le nom des fleurs, quand on faisait des balades dans la campagne, le nom des panneaux de la circulation, le nom des arbres, le nom des insectes. Et puis l'histoire sainte aussi. Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, Gaspard, Melchior, Balthazar. Et toutes ces histoires-là. Et les histoires littéraires, ou les histoires de l'histoire au sens classique du terme. Mon père a quitté l'école très tôt, mais me parlait de Louis XI dans sa cage. Il me parlait d'un texte de Maupassant. Il citait quelques vers de Victor Hugo. il était capable de se souvenir qu'il y avait dans la littérature des grandes figures, des grands hommes, et que Chateaubriand, c'était pas rien, que Victor Hugo, c'était important. Donc, inscription dans les histoires. Histoire religieuse, histoire sainte, histoire littéraire, histoire. Moi, je suis né à Chambois, qui est le lieu où s'est terminée la poche de Falaise, qui est la fin de la bataille de Normandie, comme vous le savez. Et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une histoire quasi quotidienne. Mon père l'avait vécu. Et ça donne le sens de l'histoire. Et ça donne le sens d'une inscription dans le temps, dans la durée, dans les longues durées et dans l'histoire. On est adulte également quand on accepte les sagesses populaires dont on ne se moque pas ou dont on ne se moque plus. Et on considère que on est un adulte quand on considère aussi que oui, il y a des sagesses qui sont des sagesses cérébrales et urbaines et culturelles et intellectuelles, mais il y a des sagesses empiriques. Avec les dictons. Et on n'a jamais fait la philosophie des dictons et c'est pourtant extrêmement intéressant. La sagesse empirique est, plus j'y pense, la vraie sagesse. J'étais il y a quelque temps en plein milieu de la forêt amazonienne, dans une tribu amazonienne, avec des gens qui sont des chamans, des sorciers, des sages, et qui vont chasser le tatou la nuit parce qu'ils ont entendu un tatou qui fait son bruit spécifique, ou qui s'en vont dans la forêt, 3 jours en forêt pour chercher des lianes et pour soigner, et leur connaissance est éminemment empirique. Ils savent des choses. Et quand il faut remonter le fleuve en pirogue pendant 2 heures, ils connaissent le fleuve. Il y avait des ingénieurs qui avaient invité à dérocher. J'ai appris l'existence du mot, non pas des rochers, mais des rochers, c'est-à-dire en un seul mot, c'est-à-dire faire sauter des rochers. Simplement parce que quand ces gens-là descendent en pirogue ou remontent en pirogue, ils sont debout dans leur pirogue, fiers, et ils voient le fleuve, ils connaissent le fleuve. Moi, on me donne la pirogue, je la prends, 2 minutes après, elle est explosée sur les rochers que j'ai pas vus. Simplement, il y a une connaissance du cours d'eau, il y a une connaissance de l'âme du fleuve. Et cette connaissance, elle a été transmise. Après que j'ai fait 1 heure d'avion de Cayenne pour arriver dans un endroit où j'ai pris une pirogue pendant 2 heures, eh bien, j'ai remonté le fleuve avec un garçon dont j'ai su plus tard qu'il était le fils de celui qui m'a fait descendre le fleuve. Et j'ai vu comment ils voyageaient les deux, l'un l'autre. L'un avec une connaissance du fleuve, bien sûr, mais la connaissance d'un jeune, et l'autre avec la connaissance du fleuve, mais la connaissance d'un vieux, encore que ce vieux était plus jeune que moi. Mais il y avait des hésitations chez le premier, et on tire des bords dans le fleuve, on ne va pas tout droit, à droite, à gauche, on prend une passe, on se retrouve à faire un drôle de mouvement, puis on continue, puis etc., etc. Tout ça pour éviter les rochers qu'on ne voit pas, sauf ceux qui sortent, bien sûr, mais qu'on ne voit pas parce qu'on les connaît, parce qu'il y a eu cette transmission empirique. Et l'ancien, quand il est redescendu, il avait remonté certains petits rapides qu'on avait laissé la pirogue, on avait fait un peu de marche, on a retrouvé la pirogue derrière, et l'ancien, lui, il se les a pris. Et je me suis dit, on va se les prendre, les rochers, là. Il y a à peu près 1 mètre pour faire passer la pirogue, et il y a un flux terrible. Et le bateau passe. Et il passe entre les deux. Il y a 10 centimètres de chaque côté. Cette science est une science. Et elle vaut bien celle de saint Thomas d'Aquin. Simplement, c'est une science que nous avons perdue. La connaissance du fleuve, la connaissance de la forêt. Quand Jean-Marie Pelt, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur les plantes et qui les connaît toutes et qui est agrégé de pharmacologie, est allé faire un tour en Amazonie, il a ramené des plantes. Les soigneurs lui ont dit ce qu'on soignait avec ces plantes-là. Il les a fait analyser, ces plantes, et il a découvert que les substances qui se trouvent dans ces plantes soignent effectivement ce pourquoi elles sont censées soigner. Il y a des chimiothérapie, j'en ai connu quelques-unes, hélas, qu'on appelle le taxotère, et qui sont des chimiothérapies qui sont faites avec un if. Et cet if est souvent au bord des cimetières, et les chevaux ne mangeaient jamais de cet if qui était toxique, savoir empirique des animaux. Et on a découvert ça par la suite. Les grands anciens des forêts amazoniennes le savaient déjà, depuis très longtemps. Donc dans les dictons, il y a une sagesse empirique qu'on a méprisée. On l'a méprisée parce que au Moyen-Âge, on a considéré que quiconque disposait de cette sagesse empirique était une sorcière. Et j'aurai l'occasion de vous en parler au moment de décadence. Les sorcières ne sont jamais que les détentrices, femmes en plus, d'un savoir empirique auquel on veut faire la peau au nom d'un savoir conceptuel. Ce sont des femmes qui connaissent la nature, ce sont des femmes qui connaissent les potions, ce sont des femmes qui connaissent les onguents, ce sont des femmes qui connaissent les plantes, et qui sont capables, en mélangeant tout ça, de faire le bien, de faire le mal, magie noire, magie blanche, guérir, faire mourir. Voilà pourquoi on en a détruit des milliers de sorcières dans la totalité de l'Europe, justement parce que c'est le début de la fin, je dirais, de la pensée empirique et de l'avènement de la pensée raisonnable, rationnelle. Et mon père était un héritier de cette sagesse empirique. La neige attend la neige, disait-il. Ça voulait dire que tant que la neige n'était pas complètement fondue, la température était telle qu'il allait neiger à nouveau. Ça marchait toujours. Et il y avait un certain nombre d'informations comme ça qui avaient à voir avec le ciel, avec la pluie, avec les odeurs de la terre, avec toutes ces choses qui faisaient qu'il y avait une sagesse empirique. Et je ne savais pas qu'il m'enseignait cette sagesse empirique. La sagesse empirique la plus importante en ce qui me concerne, du moins celle qui m'a permis un certain nombre de choses dans ma vie et qui lui a permis aussi un certain nombre de choses, c'est ce que j'appellerais la leçon des étoiles. Il y avait entre lui et moi une histoire d'étoiles polaires. Quand j'étais petit garçon, j'avais 8 ou 9 ans, je ne sais plus très exactement, mais dans un champ, on plantait des pommes de terre. J'étais très bavard, mon père était très mutique. Et je faisais un trou avec la houe, et moi je mettais une pomme de terre, et puis je tirais le panier, et puis hop, il refaisait la même chose, etc. Et je parlais tout le temps. Et il me disait, tais-toi donc. Et il passait un avion dans le ciel, et on n'avait pas beaucoup d'argent chez mes parents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je lui ai dit, mais si tu avais un voyage à faire quelque part un jour, où irais-tu? Et mon père m'a répondu, au pôle Nord. Et mon père est quelqu'un qui n'avait aucun désir. Fête des pères, on ne pouvait rien lui offrir, une cravate, il en avait déjà une. Des livres, il ne lisait pas, des disques, il n'écoutait pas de musique, etc. Il y a quelqu'un qui, des gens comme ça qui sont extrêmement riches puisqu'ils ne désirent rien. La vraie richesse, c'est ça, c'est ne rien désirer. Quand on est dans cet état d'esprit, quand on ne désire rien, on possède le monde entier. Simplement, ce n'est pas facile pour faire des cadeaux dans ces cas-là. Et cette idée qu'il ait pu désirer un voyage au pôle Nord m'avait un peu stupéfait, mais j'ai gardé l'information. Probablement, j'ai dû lui demander pourquoi. Il a dû me répondre parce que, en ajoutant, tais-toi donc. Et bin. Non, c'est lui qui binait. Donc, il y avait ça dans un coin de ma tête. Quelques temps plus tard, 1981, il a 60 ans, et il arrête d'un seul coup le travail parce qu'on lui dit qu'il a de l'angine de poitrine et qu'il lui faut se faire opérer, et donc double pontage coronarien. Et à l'hôpital, quand on se retrouve à l'hôpital, j'ai 22 ans à ce moment-là, eh bien, avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ben, en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Et quand vous avez plusieurs heures à passer, et il m'est revenu cette question, je lui dis, tu sais, un jour, je t'avais posé cette question, si tu devais aller quelque part, où irais-tu? Il me dit, oh, j'ai dû te répondre au pôle Nord. Et pourquoi? Comme ça. Et donc, c'était resté aussi dans ma tête. Et le vieux papa que j'avais vieillissait doucement, bellement, et tranquillement, et en 2001, il a eu 80 ans. Et j'étais tellement heureux qu'il soit encore là que je lui ai dit, ben si tu veux, on y va au pôle Nord. Et mon père me dit, oh, faut demander à ta mère. Et alors, il a dû commencer par dire quelque chose du genre, tu crois? Et puis après, il me dit, faut demander à ta mère. Et maman a dit, ben oui, bien sûr. Et donc, on est allé au pôle Nord. Et ce voyage au pôle Nord a été l'occasion pour mon père, de voir ce qu'il a vu, alors qu'il partait voir ce qu'il voulait voir et qu'il n'a pas vu. Pour le dire autrement, il allait voir un genre d'image d'Épinal, les Esquimaux, igloos, etc., enfin toutes les choses qu'on imagine, et puis on arrive sur place, les Esquimaux, ils sont en basket, et ils sont avec des polaires, et puis les maisons sont des maisons en bois, et il y a des antennes paraboliques, et quand on rentre, ils regardent Alerte à Malibu. Il y a un supermarché dans lequel on peut acheter des produits congelés. Et on se dit, effectivement, on est au pôle Nord. Et on était au mois d'août, je ne voulais pas le tuer quand même. Et je me suis dit, on ne va pas l'emmener dans des températures de 40 degrés, de moins 40 degrés. Et donc, plus de neige. Vaguement, de loin, quelques icebergs, mais plus de neige, de la poussière. Et des gamins qui passaient avec des quads. Et des adultes avec des 4x4 qui montaient, qui descendaient, un village de 200 habitants, et des nuages de poussière, avec des gens obèses, les dents massacrées par le sucre, et nous demandant, dès qu'on arrivait, si on avait des pétards ou si on avait de l'alcool. Et effectivement, quand on vient voir le pôle Nord de Paul-Émile Victor, on est déçu. Première phrase de mon père, j'aurais presque cru ça comme ça. Première phrase qui me vient dans la tête, une phrase de Schopenhauer, « Le désir ne tient jamais ses promesses. » Et je me suis dit, tu aurais mieux fait de te dispenser de ce genre de choses et il aurait mieux valu entretenir le mythe plutôt que d'avoir cette réalité. Finalement, dans cette petite dizaine de jours, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont fait que mon père a vu des choses, et moi aussi, et des choses extraordinaires. On s'est retrouvé à un moment donné, on a pris un petit bateau, on s'était retrouvé assez loin dans des côtes, dans une petite maison, et on devait repartir le lendemain matin, puis il y avait un ours qui avait décidé qu'on ne sortirait pas. Un ours blanc. Quand c'est comme ça, on reste. Et je dis aux Inuits, à l'Inuit qui était là, je dis, mais ça peut durer combien de temps? Il me dit, 2 jours, 3 jours. Je dis, mais on a un avion à prendre. Il dit, vous prendrez celui de la semaine prochaine. Je dis, c'est pas possible. Bah si, on ne peut pas sortir. L'ours est là, il est là. Et si l'ours s'en va, on sortira. Et puis si l'ours s'en va pas, ben, on ne sortira pas. On se dit, c'est pas le même temps hein, que le temps occidental. Et pour passer le temps, donc lui, il parlait en Inuktitut, monsieur qui s'appelait Atata, c'est-à-dire papa. Il parlait en Inuktitut, c'était traduit en anglais par 2 garçons qui travaillaient avec lui, et puis le peu d'anglais que je savais, avec un copain photographe avec qui j'étais, on traduisait à mon père, qui donc finissait par avoir la formation avec un léger temps de décalage. Et il y avait donc à un moment donné presque un jeu, et Atata avait une espèce de bourse en peau de phoque, qui était fermée avec des nerfs de phoque aussi. Il y avait dedans des osselets, des os de phoque, et avec un autre nerf, une espèce de ficelle, il sortait les petits morceaux d'os, et il commençait à fabriquer des choses sur la table, et il racontait sa mythologie. Comme si, d'une certaine manière, Homère avait raconté l'Iliade et l'Odyssée, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la mythologie inuite était racontée par un inuit avec ses belles mains de paysan, et avec ses os, ses peaux, et ses nerfs. Il racontait avec cette belle voix gutturale des Inuits, et à un moment donné, il s'arrête, et il y a un sanglot dans sa voix, et il pleure. Sur un visage d'Inuit sur lequel on voit rien, comme sur le visage de mon père, ça fait quelque chose. Et il donne un coup de poing sur la table. Et les 2 garçons qui sont là avec lui sont sidérés, imaginez ce qu'est un chaman dans un village, et ils ne traduisent plus. Et on finit par se faire traduire la chose, et il nous racontait qu'au moment de la guerre froide, oubliez les projections de Mercator et prenez un globe terrestre, vous voyez à quoi ça ressemble, et bien évidemment, au moment de la guerre froide, si les bombes atomiques avaient dû partir des États-Unis en direction de l'Union soviétique, ou vice-versa, ça serait parti par là. Ça n'aurait pas survolé l'Europe, mais ça serait passé par là. Et que donc les Américains avaient décidé de déporter, enfin de monter plus au nord, les populations inuites pour qu'il y ait une espèce d'avancée. Sauf que ils ont monté les Inuits avec leurs chiens un peu plus au nord et que il faut savoir comment vivent les Inuits, c'est-à-dire ils creusent la glace et quand ils ont creusé la glace, ils pêchent, ils sortent le phoque et le phoque permet de manger, de s'éclairer, de vivre quoi. C'est une civilisation du phoque et de la pêche. Il n'y a plus de caribous, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien du tout dans cet endroit où nous étions. Et donc ils ont été remontés plus au nord. Simplement, il y avait 8 mètres de glace, donc on peut plus percer la glace. Ça veut dire qu'on peut plus manger. Donc ils sont redescendus avec leurs chiens. Et quand les Américains ont compris ça, quand ils ont vu ça, ils ont remonté les Inuits un peu plus haut. Et pour être sûr que les Inuits ne redescendraient pas, ils ont tué tous leurs chiens, qu'ils ont fichés sur des pieux. Et Atata racontait cette histoire et pleurait au souvenir de ses chiens morts. Et mon père a compris ce jour-là qu'il ne verrait pas les Inuits d'antan, mais qu'il fallait voir ce qu'il avait à voir, c'est-à-dire un Inuit qui lui avait compris la fin d'une civilisation, que nous ne verrions pas cette civilisation. Et mon père a compris que lui aussi, il avait vécu la fin d'une civilisation, et que lui qui avait labouré derrière les chevaux, il avait connu exactement les mêmes gestes que les gestes de Virgile, ou contemporains de Virgile, et que plus tard, avec le tracteur, il s'était mis à vivre autre chose, autrement. Et que ce que Atata avait connu avec la motorisation, la fin de sa civilisation, eh bien mon père l'avait connu aussi. Mon père a compris d'un seul coup que le paysan de la mer qui était Atata et lui le paysan de la terre, c'était des hommes faits d'un même bois. Et qu'ils ne se comprenaient pas, ils ne parlaient pas la même langue, mais qu'ils avaient vécu les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, et qu'ils portaient le deuil d'un passé qui n'était plus, et qu'il fallait vivre avec un contemporain, une vie contemporaine qui n'était pas forcément celle à laquelle ils espéraient. Ils sont devenus, tous les deux, amis comme s'ils se connaissaient depuis 50 ans. Et quand on était sur le pont du bateau, il ne faisait pas bien chaud, eh bien mon père était avec lui en bas, là où il y avait un petit chauffage. Il se souriait, il se regardait, Ils se comprenaient. Pas besoin de mots, il y avait une communication non verbale, je dirais, et les choses étaient tout de suite dites avec des gestes. Et le voyage coûtait cher, donc évidemment, quand on accepte ce genre de voyage, on se dit on a des bourgeois qui s'ennuient et qui viennent faire un tour pour raconter avec leur diapo les voyages au pôle Nord ensuite. Mais il a compris que mon père avait 80 ans, qu'il était ouvrier agricole et que c'était un voyage offert par son fils et que le fils honorait son père. Et il était un peu plus jeune que mon père 80, lui devait avoir 72 ou 73. Et à ce moment-là, l'Inuit a fait savoir qu'il fallait respecter l'ancien. Et on s'est retrouvé dans un autre endroit où il n'y avait que des pierres, rien d'autre que des pierres. Et Atata est parti avec une démarche d'ours. Et c'était intéressant de voir cette démarche d'ours, parce que pour un Inuit, un ours, c'est un humain. Et revenu de nulle part, il est arrivé avec une chaise. Et il a donné la chaise à mon père. Et il y avait une petite dizaine, je crois, d'Inuits qui étaient là. On était tous assis sur des pierres. Et mon père était là, assis comme un roi, sur un trône, avec cette petite chaise. Et on a mangé le phoque cru, le foie du phoque cru. Il a fallu gober l'œil cru du phoque. Et le partage s'est fait parce qu'il y avait cet hommage à l'ancien. Quand l'ours a fini par quitter l'endroit, il y avait un petit bateau qui nous conduisait à un autre endroit, et mon père est parti le premier avec un tata, et il y avait un épais brouillard. Il y avait une lumière extrêmement bleue, grise, bleue. Et mon père est parti, je me suis dit, mais ça ressemble au voyage qu'il fera quand il mourra. Passage du Styx. Le passage du Styx se fera dans cet esprit-là. On entre dans une autre lumière. Il entrera dans une autre lumière. Et puis, on est rentré. J'ai donc écrit un petit livre qui s'appelle « L'esthétique du pôle Nord » pour raconter cette chose-là. Ce que j'ai appris plus tard, ce sont les origines vikings de mon père. Depuis 1000 ans, les Onfray sont en Normandie, avec ce nom-là, présence des Onfray avec Guillaume le Conquérant, de Onfray sur la tapisserie de Bayeux, enfin bon, etc. Je le savais sans le savoir, mais je savais que mon père était viking, et d'une certaine manière, descendant de viking, et d'une certaine manière, j'ai découvert quelque chose beaucoup plus tard, qui était assez singulier, c'est que, si je vous demande qui a découvert l'Amérique, vous allez me dire Christophe Colomb, c'est pas vrai. Les premiers à avoir découvert l'Amérique sont des Scandinaves. Et la découverte de l'Amérique, elle s'effectue par les Vikings en 986. Et ce qui est assez singulier, c'est que cette découverte, elle est racontée dans la saga de Leif Erikson, cette découverte, elle se fait sur un lieu qui s'appelle le Helluland. Et le Helluland, c'est la terre de Baffin. Et la terre de Baffin, c'était l'endroit où nous étions. Sur cette histoire du pôle Nord, de l'étoile polaire, les leçons que mon père m'avait enseignées, c'était par exemple le ciel. Et je me souviens sur le bas de la porte qu'il m'avait raconté les constellations. Il y avait grand ours, petit ours, etc. Et puis, voilà, regarde, là, ça fait la queue d'une casserole, puis là, c'est comme une casserole, puis etc. Et puis l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'était la première levée, la dernière couchée, et c'était celle qui indiquait toujours le nord. D'une certaine manière, c'était une leçon de sagesse existentielle. Tâche d'être le premier levé, le dernier couché, et d'indiquer toujours le nord. Je ne le savais pas, mais c'était une leçon. C'était des choses qu'on enseignait à l'école, l'astronomie, à l'époque. On a retrouvé des cours d'Alain, le philosophe Alain, qui sont des cours d'astronomie, qui étaient des cours d'astronomie comme ceux de Camille Flammarion, l'astronomie populaire, mais on enseignait aux enfants le cosmos. Et mon père me dit, tu vois les lumières que tu vois là tout de suite, elles sont parties pour certaines il y a des millions d'années. Les étoiles que tu vois, elles sont mortes. Certaines sont mortes. Les lumières arrivent, mais elles sont mortes depuis des millions d'années. C'était une leçon sur le temps. Sagesse empirique. On ne m'enseignait pas que le temps, c'était une forme a priori de la sensibilité, comme chez Kant, ou que c'était la forme immobile de l'éternité immobile, comme Platon. On me disait, là où tu es, il y a des temps différents. Le temps de l'étoile, c'est ça. C'est un temps extrêmement ancien. Mon père ne savait pas que ce qui est, et c'est la réponse à l'ontologie matérialiste, vous verrez, on y arrivera, mais ce qui est n'est jamais que la variation sur le thème de l'effondrement d'une étoile. C'est l'effondrement d'une étoile qui fait que nous sommes ce que nous sommes, que nous vivons ce que nous vivons, que ce qui advient tout de suite advient comme ça advient. Et donc il m'avait raconté ça, Étoile polaire, le son. Et quelques temps plus tard, il y a 6 ans, puisque je vous le dis, hier soir, l'équivalent d'hier soir, dans la nuit du 29 au 30, nuit de l'Avent, ce qui fait sens pour les catholiques, ce qui fait sens aussi pour les païens, puisque cette nuit est une nuit que les chrétiens ont récupérée sur les nuits païennes, c'est-à-dire c'est la nuit qui annonce le retour possible de la lumière, eh bien cette nuit-là, j'ai conduit mon père à la maison, à sa maison à lui, à la maison de mes parents, et moi j'ai une maison aussi à 50 mètres, et il faut, pour aller de cette maison à la maison de mes parents, maison de ma mère aujourd'hui, il faut monter une petite place, la place de l'église. Et jadis, comme vous le savez, les cimetières étaient autour de l'église. C'est-à-dire cette place, c'était le cimetière. Et la civilisation a écarté les cimetières des centres des villages et on a mis les cimetières aux périphéries. On a rejeté les morts. Alors qu'on vivait avec les morts à l'époque où les cimetières étaient autour de l'église et l'église au cœur même du village. Et quand on s'est retrouvé sur cette place, c'est-à-dire sur l'ancien cimetière, mon père m'a dit « il faut que je me mouche », il a sorti son mouchoir, et je tenais son bras, il n'avait pas besoin que je le lui tienne, et j'ai regardé l'étoile polaire. Et il y avait une espèce de ciel d'une étrange couleur, marron, marronasse, orange, et je ne vois pas d'étoile. Et je lui dis « ce soir, on ne verra pas l'étoile polaire ». Et mon père m'a dit « non, ce soir, le ciel est couvert ». Et il est mort, dans mes bras. Donc, quelque chose a eu lieu à ce moment-là, c'est-à-dire quelque chose dont on se dit « ça m'arrivera un jour, ça m'arrivera, je ne serai pas là, je serai en train de faire une conférence au Japon, en Inde ou en Amérique du Sud, ou je ne sais pas quoi, trop loin, ou à Argentan, où j'habitais, c'est-à-dire le temps d'arriver, et puis c'était trop tard. Et d'une certaine manière, il me faisait ce cadeau, à moi, tout seul, on était tous les deux, de m'offrir sa mort en me disant « voilà, tu es là, c'est ce jour, je m'en vais ». Et il est resté debout, comme un chêne qui vient d'être foudroyé mais qui ne tombe pas, et c'est moi qui l'ai déposé par terre. Et là, j'ai vu que c'était fini, et je me suis dit, j'hérite. J'hérite parce que quelque chose de sa force est passé en moi. Je ne crois pas à l'âme immatérielle. Je ne crois à rien de ce qui s'appellerait un esprit, je ne sais pas quoi. Je suis d'une matérialité absolue, d'un matérialisme radical. Et je sais à ce moment-là que j'ai hérité de sa force. De rien d'autre que ça. Le reste, c'est un chèque qui ne dépassait pas 50 euros et que je n'ai pas touché. Mais on se dit, cette force l'a quitté. Il me l'a donné. Qu'est-ce que je peux faire de cette force? C'est une force qui oblige. C'est un cadeau qui ne donne pas des droits, mais qui ouvre à des devoirs. J'ai cru qu'il me fallait me rendre digne de cet héritage, comprendre ce qu'était cet héritage très précisément, et puis après l'avoir compris, tâcher d'en être digne. J'ai demandé à 2 amis prêtres qu'on célèbre la messe, que j'ai souhaité religieuse, un copain, frère Joël, un ami qui est dominicain, et puis un prêtre ouvrier, un autre ami. Je voulais que mon frère puisse avoir son prêtre, que moi je puisse avoir mon prêtre, et que ces deux prêtres puissent aussi dire ce qu'était aussi mon père, la spiritualité d'un dominicain éventuellement, et la fraternité d'un ouvrier. Et il pleuvait, comme ça n'était pas possible, il y avait du monde partout, dehors. Et je me suis dit, il allait avoir 89 ans, c'est bien d'avoir eu une vie qui a rendu possible autant de ferveur. C'est une vie droite, et cette vie droite, il faut que je la veuille pour moi. Je n'ai pas seulement écrit Cosmos pour dire ce qu'était cet héritage, à quoi il ressemblait et comment je pouvais le mériter. J'ai aussi voulu écrire ce livre pour vous. C'est-à-dire, je me suis dit, on perd toujours, hélas, des gens qu'on aime, et il faut que les pertes des gens qu'on aime soient des forces. Je n'aime pas cette expression « faire son deuil », qui est une espèce d'héritage de la psychanalyse. Je préfère dire que c'est le deuil qui nous fait. Il faut, quand l'autre est parti, vivre avec lui. La mort, c'est une absence qui devient présente. Et c'est une présence, cette absence, extrêmement lancinante. Ou on se fait détruire par cette présence, et on meurt aussi, ou alors on ne se fait pas détruire et on se construit à partir de cette force-là, et on donne un peu d'être à celui qui n'en a plus. J'ai souhaité donc formuler cet héritage. Cosmos est la formulation de cet héritage. Je souhaiterais que pendant ces deux années, vous puissiez trouver dans cette proposition que je vais vous faire d'une méthode pour parvenir à la construction de soi dans la fidélité, que vous puissiez trouver matière à une existence pacifiée. Ce que propose Cosmos, c'est effectivement une existence pacifiée sans l'aide des dieux. Je vous remercie. Alors, bibliographie, outre le Nietzsche dont je vous ai parlé et sur lequel il faut revenir en permanence, le gai savoir, il y a dans les sagas islandaises, en Pléiade, trois textes qui racontent comment l'Amérique a été découverte par les Vikings, et ce sont les sagas du Vinland. Saga d'Éric le Rouge, saga des Groenlandais et dit des Groenlandais. C'est extrêmement intéressant. La saga, c'est comme vous savez, c'est une histoire, mais qui est spécifiquement islandaise. Dire saga islandaise, c'est un pléonasme. Les sagas sont islandaises. J'ai écrit donc l'histoire de ce voyage sous le titre esthétique du pôle Nord. Il y avait des photos aussi de mon ami Alain Suzinski. Et vous avez une édition de poche. Cosmos, donc vous verrez, vous avez déjà peut-être un peu vu pour ceux qui auraient lu, que je ne raconte pas Cosmos, je dis des choses qui ne sont pas dans Cosmos, il y a dans Cosmos des choses que je ne dirai pas, je ne me contente pas d'une lecture. Donc Cosmos est un support, de la même manière que la contre-histoire de la philosophie écrite n'était pas ce qui me permettait de lire un texte. Vous avez vu que j'improvise toujours à partir de ce qui est écrit. Donc Cosmos est une chose, le cours qui s'appelle Cosmos est une autre chose, où je développe des choses que je ne développe pas, où je passe à côté de choses que je laisse à l'écrit. Il y a parfois des choses intimes qu'il est plus facile d'écrire que de dire. Et puis un Cosmos pour les nuls, l'étoile polaire d'un certain Michel Onfray, et donc Cosmos c'est chez Flammarion, avec des illustrations de Mylène Farmer, l'étoile polaire chez Grasset. J'ai souhaité que cette histoire puisse être une histoire pour les enfants aussi. C'est une explication. J'ai écrit un texte qui s'appelle « La constellation de la baleine » qui a été mis en musique par mon ami Pierre Tillouin. On faisait la création mondiale de cette pièce-là dans les pays scandinaves. On était au Danemark, on est allé ensuite en Finlande, en Norvège, je crois, Suède, je ne sais plus quel pays, 3 ou 4. Et on est allé visiter un musée viking et j'ai souhaité faire quelque chose pour l'enfant de ce compositeur qui est un Mathéo, qui était un petit garçon brillant, et j'ai cherché une bibliographie, il y avait des bandes dessinées, ça ne m'intéressait pas très bien, je lui ai dit, je vais lui écrire un texte. Et j'ai écrit un texte pour ce petit garçon, a priori, et puis après je me suis dit, peut-être que je vais en faire un conte pour enfants. Mais donc j'ai écrit un texte en me disant, il faut que le maximum de gens puissent lire, des jeunes et puis des moins jeunes. Donc voilà, c'est un texte qui quintessentie aussi. Voilà pour cette biblio du jour. Vos questions d'actualité ou non?
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre perception de la COP21 qui se déroule aujourd'hui?
Alors, c'est parti pour une demi-heure? Non, je vais être rapide. Moi, j'aimerais qu'on puisse... On ne peut plus débattre en France. C'est plus possible. Tout le monde s'insulte et vous avez un responsable de la météo, par exemple, qui a écrit un livre en disant un certain nombre de choses et on dit « c'est pas politiquement correct, hop, viré ». Bon, très bien. Et moi, je me dis, il y a une époque où, quand il y avait des livres, on faisait des débats, on permettait aux gens de dire ce qu'ils pensaient, et on permettait d'argumenter, de contre-argumenter, etc. Aujourd'hui, il y a des gens dont on dit qu'ils sont climato-sceptiques. Ceux qui sont climato-sceptiques se disent climato-réalistes. Vous voyez bien que déjà, quand on dit climato-sceptique, on interdit de penser que la question du climat soit pensable. C'est déjà pensé. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est déjà pensé. Il y a des gens qui ont pensé ça pour vous. Donc arrêtez de nous ennuyer avec ça. Le climat, il faut penser ceci. C'est dans les manuels scolaires, tout le monde le dit, etc. Moi, je veux bien. Je pose juste une question naïve. Je dis, mais moi, à mon temps, j'ai lu Emmanuel Leroy-Ladurie et l'histoire du climat depuis l'an 1000. Et ça me paraissait extrêmement intéressant, cet homme qui nous dit, moi j'ai retrouvé des archives chez les viticulteurs, et les viticulteurs disent, tel jour, telle heure, telle date, il a plu, il a neigé, il y a du froid, il fait telle température, il y a du brouillard, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire que, pour le vin, pour la production de l'année, des archives sont faites, qui permettent après ça de réfléchir sur ce qui s'est passé pendant 1000 ans, parce que ces archives qui étaient faites pour des viticulteurs, dans la main d'un historien, elles deviennent autre chose, elles nous permettent de penser le climat. On verra, on fera des cours, je consacrerai quelques séances à l'astrophysique, je ne suis pas un astrophysicien, mais je vois à l'astronomie, mais il y a un certain nombre de choses à savoir, et il y a une vie du cosmos. Moi je pose juste la question, il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes de réchauffement, alors que l'homme n'existait pas sur la planète. Peut-on nous dire ce qui a rendu possible les glaciations et les réchauffements ? Qu'on puisse nous expliquer les rapports du Soleil, du cosmos, etc., dans ce qui se passe sur la Terre. C'est bien la nature, on a le sens de la nature, mais ceux qui ont le sens de la nature n'ont pas le sens de l'inscription de la nature dans le cosmos. Or, le cosmos est inscrit dans un... Enfin, nous sommes inscrits dans un système solaire, et le soleil produit un certain nombre d'effets. Ces effets produits et induits, on ne les analyse pas. Donc je voudrais juste qu'on nous dise effectivement quelle est la part de la nature dans cette aventure et quelle est la part de la culture. Réchauffement de la planète, certains disent non. Ceux qu'on appelle des climato-sceptiques, ceux qui s'appellent les climato-réalistes disent mais pas du tout. Si on prend les archives à partir de Louis XVI ou Louis XIV, on ne sait plus, enfin, si on prend des archives à partir de cette époque-là, je crois que c'est Louis XIV, eh bien ce qu'on constate, ce n'est pas un réchauffement, c'est un refroidissement de la planète. Eux donnent des chiffres, eux donnent des courbes, et je me dis, mais moi je ne sais pas décider de ces choses-là. D'un côté, j'écoute les gens qui sont les tenants du discours dominant, et je me dis, ils ont raison. Après ça, j'écoute les autres, je me dis, ils n'ont pas tort. Et comment je fais, moi, comme citoyen, pour pouvoir décider de qui dit quoi ? Alors, c'est vrai que quand Claude Allègre fait cette démonstration, il se met à prendre un schéma, et puis il infléchit la courbe pour que ça puisse lui donner raison. Donc on se dit, évidemment, quand on a affaire à des gens comme ça, on a plutôt tendance à croire les gens qui critiquent Allègre et les thèses d'Allègre. C'est pas rendre service à sa thèse si, effectivement, il a fait ça. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est une manipulation qui fait dire qu'il a manipulé lui-même un schéma ? C'est-à-dire, dans ce monde où, effectivement, c'est pour ça que la politique c'est aussi ça, dans ce monde où tout le monde dit n'importe quoi, où le débat n'est plus possible, où il n'y a plus que de l'insulte, parce que quelqu'un qui dit juste, attendez, moi je voudrais réfléchir là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ensemble, réfléchir là-dessus et voir ce qui est susceptible d'être conclu définitivement, c'est interdit, il ne faut pas, un type qui travaille à la météo, qui a donc fait des études pour ça, et qui dirige le service sur une chaîne du service public, qui lui écrit un livre pour dire, écoutez, c'est pas si simple que ça, voilà, moi je propose un livre, plutôt que de dire, tant mieux, on va faire une soirée là-dessus, et on va débattre, et on va éviter de se traiter de tous les noms d'oiseaux, on dit tout de suite, on te vire. Dans une civilisation où on commence à virer les gens qui écrivent des livres, j'ai plutôt tendance à croire que c'est celui qui écrit des livres et qui se fait virer qui a raison sur les autres, parce que si on est sûr de soi, on débat, mais on n'insulte pas, mais on ne met pas la porte, etc. Donc je ne conclue rien sur cette chose, je vois juste que ça coûte terriblement cher, qu'à l'époque où on ne nous parlait que de dette, en nous disant on ne peut rien faire, il y a la dette, il faut rembourser la dette, il n'est pas question qu'on augmente d'un centime les smicards, il n'y avait pas un centime pour les smicards, aujourd'hui il y a des millions pour les bombes, et il y a aussi des millions pour fabriquer des conférences, dont je prends le pari, on va en reparler, mais qu'elles n'accoucheront de rien. Et à bientôt.
Merci.
C'était Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Prise de son, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre Dramatique National de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Bévillon. Demain, une anthologie matérialiste.